Bonjour, 8h30 sur France Culture en ce dimanche matin avec Jean-Luc Gadreau pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. C'est Bruno Godelet que je reçois ce matin, pasteur de l'église protestante unie de France à Paris, en poste actuellement au Temple des Batignolles. Théologien, philosophe, spécialisé en herméneutique et auteur de plusieurs livres, dont aux éditions Olivetan, Quand l'Évangile se raconte, qui est en fait le recueil des conférences de Carême qui avait été diffusé ici même sur France Culture en mars et avril 2019, mais également Le Credo revisité et comme une suite en quelque sorte tout récemment, Le Notre Père revisité. Et c'est de ce livre que nous parlerons ce matin. Bruno Godelet, bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
Aujourd'hui, nous commencerons notre entretien par l'intervention de notre chroniqueur Vincent Smetana avec nous en studio, venu du plat pays qui est le sien. Je vous donne tout de suite la parole, Vincent, car il y a quelque chose qui vous turlupine, je crois, qui vous tracasse, tellement que vous n'en dormez plus vraiment la nuit depuis que vous savez que Bruno Godelet est ici ce matin dans Solae. Alors ouvrez-nous votre cœur, Vincent, nous vous écoutons.
Mais bon, alors déjà, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en fait, revisiter, hein ? Revisiter, ça n'existe pas vraiment en soi. Revisiter, c'est visiter avec un re devant, comme faire et refaire, lire et relire, dire et redire, venir et revenir. Alors, visiter, transitif du premier groupe, visiter, c'est aller voir, tendre l'œil et l'oreille, accueillir ou ralentir, s'assurer de l'agencement des choses, les soupeser, les chatouiller, les observer, se faire un avis. On dit aussi faire une visite ou rendre visite par dévotion, par intérêt, par amitié, par pure curiosité. Et ce faisant, s'autoriser... Tiens, votre invité serait-il donc un être curieux, puisque quand il lit quelque chose, visiblement, il a ce désir de retourner le lire, le re-soupeser, re-chatouiller, revisiter. Alors, le credo, puis le Notre Père, mais pourquoi faire? Si ce n'est peut-être pour se laisser dérouter par un autre regard, une sortie de route inopinée, une gamelle, une mise en lumière nouvelle. C'est toujours bien ça, c'est comme ça se fait en cuisine aussi. D'ailleurs, par exemple, on va vous servir des œufs brouillés, par exemple. On vous les sert sur une jolie assiette, avec du persil, tout ça. Puis là, vous vous dites, tiens, mais ça, alors, j'avais commandé une omelette à la truffe, c'est quoi ce truc sans forme là?
Alors, vous êtes toujours comme ça, Vincent, quand vous commandez quelque chose à manger, vous ne pouvez pas juste vous laisser faire et manger ce qu'on vous sert, je ne sais pas. Vous ne seriez pas un peu exigeant là quand
même? Ah, mais peut-être bien que la revisite est une forme d'exigence aimante qui, si on l'apprivoise, soudain nous enchante. Si je dis, cette omelette n'est pas comme d'habitude, la voilà la réaction qui crée le malheur, le laisser faire, la pauvreté et le vide. L'habitude. Mais non, là on me répond que ce sont des œufs brouillés, mais que le chef en a fait une nouvelle lecture. Il a revisité les œufs brouillés. Voilà, voilà. Et là on s'approche du truc. Car en vrai, la revisite ne serait-ce pas une façon de mobiliser son enthousiasme sur le poids et l'humeur, revisiter le déroulé, la silhouette, le rythme, la texture, l'odeur et la saveur des choses pour éveiller en nous un chatouillement délicieux et nourricier. Et moi, par exemple, je n'aime pas du tout les huîtres.
Ah mais non, ça c'est pas possible, vous ne pouvez pas me dire ça à moi Vincent, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Ouais. Moi le charentais que je suis ne peut supporter cette idée, une bonne huître de marraine, il n'y a rien de mieux.
Non, attendez, car un jour, quelqu'un, serait-ce donc vous Jean-Luc, peut-être, m'a conseillé de les manger cuites et cuisinées. Ouais, j'ai donc entamé la revisite de mes a priori, de mon dégoût premier pour cet animal gluant et sans goût, et qu'a donné cette revisite, la stupeur et l'émerveillement, le « ça alors, salvateur !» Vous voyez, à quoi bon s'arrimer à nos acquis s'ils ne portent plus de joie, plus de fruits, s'ils sont en sommeil, creux, morts à nos oreilles, car oui, la revisite permet l'éblouissement du neuf, le jaillissement de l'enjeu, pareil que pour les œufs de tout à l'heure. Des œufs brouillés, c'est quoi? C'est l'œuvre du paresseux qui ne sait pas manœuvrer la chose en vue de l'omelette moelleuse, tendre, fondante et savoureuse.
Ou bien,
c'est l'œuvre de celui qui se dit prêt à la revisite d'un plat, l'omelette, qui se présente toujours à nos assiettes tel un accident, une flemme, une méprise, une bavure, un ratage, un manque de talent. Si le lapin tue le chasseur, c'est parce qu'il a un fusil, vous voyez.
Vincent, attendez quand même, ça vient faire quoi ici, cette histoire de lapin, soudainement dans vos propos?
Eh bien, donc si le lapin tue le chasseur, c'est parce qu'il a un fusil. Or, dire qu'un lapin a un fusil, c'est déroutant parce que ça n'est pas rationnel. Ce qui veut dire que nous sommes invités à revisiter nos a priori pour comprendre, entendre et accueillir le nouveau. Voyage obligé. Or, beaucoup de gens résistent à la revisite et c'est moche et tristounet. Car ne pas revisiter une séquence biblique simple, fluide, invitante comme le Notre Père induit donc cette attitude de paresse et de renoncement. On ne soupèse plus les mots, on les annonce, on les brouille, on ne goûte plus à l'élégance de la séquence, on débite cette prière dévotement, sans cœur, sans flair, on ne mesure plus l'élan de cette simplicité aimante, on la déroule, on la défait, on la dégomme comme on jette des œufs dans les poêles, en les secouant distraitement à la cuillère, on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on méprise la matière, on se fout de son goût, et ce faisant, on perd tout, mais quel gâchis! Imaginez ça, une prière si limpide, soudain par paresse, annonnée, défaite, livide, méprisée comme des œufs sans sel, des lapins sans fusil, des huîtres sans perles. Non mais franchement, alors disons ceci, toujours et en tout temps, revisitons nos goûts, revisitons nos amours, revisitons nos élans et nos méprises, revisitons nos joies, nos surprises et nos colères, revisitons aussi les mots de nos prières. Allez, voilà, je vous renvoie la parole.
Merci Vincent, et je la reprends, je la rattrape, et je vous remercie Vincent. Mais oui Bruno, tout de même, il y a cette question, c'est quoi ce besoin pour vous donc de revisiter comme ça des textes anciens, fondateurs comme donc le Credo et le Notre Père ? Répondez peut-être à Vincent justement pour qu'il cesse de se tourmenter. Pourquoi tout ça ?
D'abord, je suis très admiratif de la verve de Vincent et de ses métaphores, notamment culinaires. On trouve beaucoup de rendez-vous culinaires aussi dans les évangiles. Et donc, oui, vous avez prononcé des mots très intéressants d'ailleurs dans ce discours que vous venez de mener. Il y a eu le mot a priori en particulier. Et ça va nous mettre sur le bon chemin parce que revisiter, c'est un mot de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la philosophie de la compréhension. Alors on l'utilise dans toutes les disciplines de l'esprit, et en théologie aussi, en exégèse, et on a mis à jour, c'est Heidegger qui a commencé, et puis ensuite son disciple Hans-Georg Gadamer, qui a mis au jour le cercle herméneutique, ce que l'on appelle le cercle herméneutique, c'est-à-dire qu'un sujet ne comprend que par ses va-et-vient vers son objet. Et en faisant ses va-et-vient vers son objet, il y a un cercle qui se met en place. Et en fonction des allées et venues vers son objet, il révise ses a priori, il révise ses préjugés, ses précompréhensions. Et donc, quand on parle du credo revisité ou du Notre Père revisité ou du lapin chasseur revisité, par exemple, c'est que l'on est tout à fait inscrit dans cette quête de compréhension, cette quête de sens. Il s'agit d'aller voir un objet et d'essayer de le comprendre, avec les outils intellectuels que nous avons, les a priori, qui sont bons ou mauvais, on ne peut pas penser sans préjugés, mais encore faut-il que nos préjugés soient éprouvés, sinon nous partons dans des directions qui vont nous entraîner dans la mécompréhension. Donc vous voyez, c'est un véritable programme, ce mot revisité. D'ailleurs, c'est pourquoi l'éditeur m'a proposé de faire un troisième volume, je l'annonce déjà.
Alors quel sera-t-il ? Quel texte ?
Eh bien, ce sera le kérigme revisité. Ah. Le mot kérigme signifie proclamation, et cela nous renvoie au mouvement chrétien primitif, qu'on trouve aussi d'ailleurs dans le livre des Actes ou chez l'apôtre Paul, qui proclame la bonne nouvelle du salut, qui est la bonne nouvelle de la résurrection. Et vous remarquerez que dans Notre Père, il n'y a pas d'eschatologie. Il y a le règne de Dieu qui est appelé, que ton règne vienne. Il est question de la terre et du ciel, mais il n'y a pas d'eschatologie proprement chrétienne. C'est une prière, au fond, qui pourrait très bien être dite par un juif ou par un musulman, par n'importe quel théiste, au fond. C'est une prière monothéiste, mais qui n'est pas particulièrement chrétienne. Alors j'avais initialement proposé à l'éditeur de faire une deuxième partie, d'avoir un livre en deux parties, une deuxième partie qui serait justement l'eschatologie chrétienne. Et puis l'éditeur m'a dit, ce serait tellement mieux que tu fasses un troisième volume à part.
Le kérigme revisité.
Et ce sera voilà le kérigme revisité que je dois remettre cet été si je veux rester dans les clous.
Alors, je reprends quelques lignes de votre quatrième de couverture, Bruno. Modèle de prière qui résume et exprime la relation du croyant avec Dieu, le Notre Père présente un concentré théologique d'une grande ampleur, une certaine façon de concevoir Dieu, mais aussi sa présence au monde, la spiritualité, l'existence humaine et croyante y est induite. La prière de Jésus nous fait entrer au fil des mots et des formulations au cœur même des différents dossiers que la foi suscite aujourd'hui, après la mise à sac de la dogmatique chrétienne traditionnelle par les savoirs et les critiques de la modernité. Qui était vraiment Jésus? Et au fil des pages, une stature se dessine et une reconnaissance monte aux lèvres. Merci Jésus pour cette prière que tu nous as laissée afin de nous guider dans notre dialogue avec Dieu. C'est donc de cette prière dont nous allons encore parler ce matin avec vous. Mais pour entrer pleinement dans le sujet, nous avons habituellement un rendez-vous avec la parole pour écouter un texte biblique choisi souvent par l'invité. Ce rendez-vous, c'est maintenant, mais dans une forme particulière ce matin, puisque ce Notre Père, nous allons l'écouter, mais dans de multiples langues qui vont s'enchaîner.
Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
ولا تدخلنا لحمة سوقانا يومانا وشوق لان حوبين وحطاهين أي كنت أبحنان شواق الحياوين
ولا تعلن نسيونا
هاتس مير هانا بازور دور مز هاي سور ونرير مير بارت كيرا انشبس يف منك نرنك مير بارتا بانيين
ومتاني مز Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas,
notre pain como también jour. Nosotros perdonamos nos ofensas, como nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
nos règles.
எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாதத்தை இன்று எங்களுக்கு தாதம். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல் எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும்.
எங்களை சோதனையில் சார்ஸ்வெத்வயோ Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Ибо Твое есть царство. Тонганасо асалана яю. Момуна ани ласо кобесо, момуна ани ланала.
Мо пардоне, кодатяни, легяко, Peine on y besoin chaque jour. Banoui jodia. Pardonnez-nous ton nous. Monye nous ka pardonner tout to les autres fait nous. Pas quittez-nous tomber en bas tentation. Mais tirez-nous en bas
tout ça qui m'ouvre. Kama vile tunavyo wasamehe walio tukosea. Usitutie majaribuni. Bali utuokoe na mwovu.
Perdoamos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Amém.
De multiples langues pour dire aussi l'universalité de cette prière, Bruno. Mais Notre Père est d'abord une prière communautaire, dites-vous dans votre livre, qui permet aussi aux fidèles de trouver un peu les mots pour parler à Dieu dans le secret de sa chambre. Et c'est aussi un enjeu d'apprentissage.
Exactement. La question de tout croyant, et même des non-croyants, c'est finalement qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la foi ? Est-ce que c'est l'adhésion à des doctrines ? Est-ce que c'est l'adhésion à une tradition religieuse ? Qu'est-ce qui nous fait faire, en quelque sorte, ce pas de dire « j'ai la foi » Et au fond, du côté de la philosophie, la phénoménologie, on va chercher du côté du langage. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'expérience sans langage. D'ailleurs, le langage, la pensée sont liés. On ne peut pas penser sans langage. Et on ne peut pas parler sans penser, les deux sont liés. Et donc là, le langage nous fait penser, la pensée nous fait parler, et tout cela nous fait agir. Et donc la foi, finalement, on pourrait la définir comme faire l'expérience de Dieu. Oui, mais la question se pose, quel Dieu ? Alors c'est l'ouverture au dialogue interreligieux, œcuménique aussi, pour savoir de quel Dieu on parle. Eh bien les mots du Notre Père nous présentent au fond... la vision de Dieu du rabbi de Galilée, de Jésus. Il nous présente, avec des mots tout simples, une représentation de Dieu, qui reprend, bien sûr, ce qu'il a hérité lui-même du monde juif, son monde, de sa religion. Et il rassemble là, dans ces quelques paroles, 5 demandes dans Luc, 7 dans Matthieu. Ouais. Il nous présente une façon de nous exprimer, une façon de concevoir Dieu. Et effectivement, dans l'évangile selon Matthieu, le narrateur a placé la prière de Jésus dans un contexte où il parle justement de la piété, de l'aumône, de la prière. Et il recommande de ne pas utiliser l'effet de la piété pour se montrer, hein, comme le font les hypocrites. Et là, il fait référence aux acteurs du théâtre grec, puisqu'on jouait la comédie avec des masques, évoquant plusieurs émotions. Et au contraire, d'avoir une démarche de sincérité, une démarche qui commence dans le secret de la chambre.
Ouais.
Mais on pourrait s'interroger, comment c'est-il que Jésus recommande d'aller prier tout seul dans sa chambre pour rencontrer le Père ?
Le pluriel.
Et exactement, et puis cette prière commence par notre Père. Et alors il y a les petits malins qui ont bien sûr observé que c'est une prière en tu et en nous. Et d'aucuns pensaient que peut-être les premières paroles, les premières demandes en tu correspondraient peut-être à la prière personnelle de Jésus, tandis que le reste en nous viendrait plutôt de la communauté des disciples. En vérité, ce sont des conjectures indémontrables, peut-être des hypothèses de travail, mais rien de plus. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que dans l'Évangile et dans la pensée de Jésus, dans les Épîtres aussi, on ne voit pas de chrétien papillon. On voit toujours que le chrétien est en communauté. Il n'y a pas de chrétiens qui vivent en dehors du corps du Christ, qui est l'Église. Et finalement, c'est dans cette Église que on nous éduque. Nos amis catholiques prennent souvent la représentation de l'Église comme la mère. Et effectivement, dans l'Église, on est éduqué, on apprend à parler, on apprend à mettre des mots sur ce que l'on ressent, on apprend de la catéchèse, on apprend du langage pour essayer de situer, concevoir Dieu, pour essayer de se situer aussi dans le monde. Et donc, c'est dans le cadre de la prière communautaire que l'on apprend aussi à parler à Dieu.
Pasteur Bruno Godelet, je me suis rendu dans plusieurs rues de Paris pour aller demander aux passants ce que signifiait pour eux ce Notre Père. Je vous propose d'écouter leurs réponses et cela va induire aussi la suite de la discussion.
C'est une prière qui m'aide dans ma foi, qui m'accompagne tous les jours.
Je sais pas, c'est pas trop dans la religion.
Pour la prière.
Oui, Notre Père qui est précieux, c'est ça.
Le Notre Père, qu'est-ce que ça m'inspire Le lien entre les hommes.
Bah, c'est notre père religieux, quoi, notre père qui est aux cieux. Bah oui, oui, je suis chrétien, maronite.
c'est pas mon truc, c'est quelque chose que je suis pas proche et qui m'a pas encore touché personnellement.
Notre père, je connais, je l'ai déjà prié beaucoup.
Je suis athée, donc rien du tout.
Pourquoi pas?
C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut se poser des questions sur soi, sur l'autre, sur l'univers, sur ce qui nous entoure. Et notre père, pourquoi pas notre mère?
Alors justement, Bruno Godelet, comme cette dernière dame le note, ce Notre Mère, c'est un point que vous n'éludez pas dans votre livre « Le Notre Père revisité ». On est au cœur, là d'ailleurs, de sujets très contemporains, le genre masculin, féminin, neutre. Et avec ça, cette question, Dieu se dit-il en fonction des enjeux culturels et sociétaux?
Alors effectivement, nous sommes une génération particulièrement éveillée aux discriminations. Ouais. Et le mouvement féministe aussi, les mouvements féministes nous ont rendu sensibles à cette domination patriarcale qui est inscrite même dans le langage. Et le langage véhicule effectivement son corps défendant, sans même que nous en ayons conscience, véhicule une partition genrée. Effectivement, c'est vrai. Et les jeunes générations, la plus jeune génération en particulier aujourd'hui, nous rend sensibles à cet état de fait. Alors, la question, c'est, faut-il changer le Notre Père pour un autre mère ou un neutre? Le problème, c'est que nous avons affaire à des anthropomorphismes. Le mot père est un anthropomorphisme, le mot mère également. Et les anthropomorphismes sont des symboles, sont des signes langagiers qui permettent d'évoquer un certain nombre de réalités. Et la relation que l'on a avec le Père, avec le masculin ou la relation que l'on a avec la mère, le féminin, ne sont pas du même ordre. Ce ne sont pas des relations qui sont qui s'excluent l'une l'autre, mais qui au contraire s'additionnent, se complètent. Et puis il y a d'autres types de relations aussi qui sont très importantes, les relations amicales, même les relations entre voisins, pourquoi pas, ou avec son patron, ou avec ses collègues. Et donc chaque type de relation est particulier. Et mieux vaut utiliser le chemin long de l'analyse historique qui replace dans le contexte historique et culturel pour essayer de comprendre ce qu'un mot voulait dire et veut dire, plutôt que d'essayer de le remplacer maladroitement et passer à côté de toute une signification très importante. Néanmoins, dans notre pratique liturgique, aujourd'hui, nous sommes éveillés à faire attention dans la liturgie, justement, à utiliser aussi bien le féminin que le masculin, ou même le neutre pour parler de Dieu. Parce que la Bible le fait elle-même. Il y a un certain nombre de passages dans les Écritures où Dieu est représenté avec des catégories féminines. D'ailleurs, même le mot « esprit » en hébreu, la roi, est un féminin. Ésaïe ne craint pas de comparer Dieu à une mère qui est attachée à son enfant et qui dit que rien ne le séparera d'elle.
On parle des entrailles aussi.
Aussi, quoique les entrailles sont communes aux hommes.
Sont communes, mais souvent avec cette dimension féminine aussi qui transparaît. Ouais.
Exactement. Ce que j'essaie de montrer dans ce chapitre sur le masculin et le féminin, c'est que Dieu est évidemment tout autre. Il n'est pas ni masculin ni féminin. Et la bonne démarche en théologie pour essayer de parler de Dieu, c'est ce que les pères les plus anciens parlaient, la démarche apophatique. La théologie apophatique ou la théologie négative, elle nous apprend qu'on ne peut pas parler de Dieu qu'autrement que par négation, c'est-à-dire par dire ce qu'il n'est pas. Donc Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une femme, Dieu n'est pas une chose, Dieu n'est rien de ce qui existe dans la création. Oui. Il est le tout autre. Donc c'est une convention de pouvoir parler de Dieu avec des mots, des symboles, des images, des métaphores. Et donc du coup, le Père est une métaphore, mais une métaphore qui dit des choses assez spécifiques dans le monde de Jésus. Le Père, c'est, d'ailleurs Freud le disait aussi, le Père c'est la loi. Le Père c'est celui qui était censé à l'époque de Jésus préparer un destin à ses enfants. Le Père c'est celui qui est censé reprendre, faire l'éducation. Alors évidemment nous, à notre époque, c'est le Père et la Mère. C'est entendu.
Bien sûr.
Mais si on corrigeait maladroitement le Notre Père par Notre Mère, on ne pourrait plus comprendre l'époque de Jésus. Et on ne pourrait plus comprendre aussi la spécificité qui est mise en avant d'une relation de confiance avec un Père.
La particularité de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de conclusion, mais un envoi. Quel serait-il ce matin pour vous dans cette émission ?
La conclusion ? Alors justement, on ne peut pas conclure le Notre Père sur un livre sur Notre Père. À mon avis, on ne peut pas le conclure. On doit faire un envoi, une exhortation. Il y a une conclusion ou plutôt un envoi un peu plus sophistiqué que je donne dans les conférences quand on m'invite à présenter le Notre Père. Je l'ai pas inclus dans le livre. Je l'ai gardé pour vos auditeurs et pour les gens qui viennent écouter les présentations lorsqu'on m'invite à droite et à gauche. Et j'aime bien comparer le Notre Père avec le Décalogue, justement, avec les 10 paroles de Moïse qui sont représentées par 2 tablettes. Et d'ailleurs, dans le reportage tout à l'heure, il y avait une dame qui disait « Oui, ça m'inspire la relation avec les autres. »
Oui, le lien.
Et bien, dans les 2 tablettes, vous avez la première tablette qui parle des relations de l'humain avec Dieu. Et puis, vous avez la 2e tablette qui parle des relations des humains entre eux. La première tablette, c'est moi ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de représentation de ce qui est dans le ciel, sur la terre, dans les eaux plus bas que terre, tu ne te prosterneras pas, tu ne prendras pas mon nom en vain. Donc on a une tablette qui parle de la relation de l'humain avec le tout autre. Et puis, dans la 2e tablette, tu honoreras ton père et ta mère, Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, pas d'adultère, etc. Et puis, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Donc, les relations entre les humains. Eh bien, si on compare ce plan du Décalogue avec le plan du Notre Père, nous trouvons 3 demandes. Les 3 premières demandes, je prends la forme du Notre Père en Matthieu, les 7 demandes. Les 3 premières demandes en Matthieu sont des demandes qui correspondent au premier commandement de la première table de Moïse. Hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire mon engagement de croyant à ce que tu sois mon Dieu, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu devant ta face, que je ne prenne pas ton nom en vain. Hein, c'est un pacte de conversion, c'est une prière de consécration de notre Père, de reconsécration. Et donc c'est une prière qui nous ramène à la foi du décalogue. C'est moi ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, et nous serons dans une relation d'alliance, donc une relation de confiance. Et puis, dans la deuxième tablette, vous avez les demandes du Notre Père qui correspondent. Hein, la demande sur le pain quotidien, sur le pardon, sur la tentation, sur le mal.
Des choses qui nous concernent personnellement.
Voilà, comment se pardonner entre humains, entre gens qui vivons ensemble. Le pain quotidien est intéressant aussi parce que dans la structure du décalogue, la demande centrale, c'est le jour du Shabbat. Et dans le Notre Père, ce qui est central, c'est le pain. Et vous savez que le jour du Shabbat, justement, ça renvoie aussi au ressourcement, comme le pain. Donc on pourrait dire à vos auditeurs, pour conclure, que finalement, le Notre Père est vraiment une prière programme qui nous invite à nous reconsacrer à Dieu, à redécouvrir les mots de Jésus pour qu'il nous redéfinisse à quel Père nous parlons, à quel Dieu nous parlons, et puis qui nous envoie aussi dans une relation d'alliance.
Eh bien, merci beaucoup Bruno d'avoir accepté l'invitation de Solae. Merci Vincent également. Je rappelle le titre de votre livre, Bruno Godelet, Le Notre Père Revisité, aux éditions Olivetan, et la possibilité de vous entendre aussi depuis la chaire le dimanche matin à la paroisse protestante des Batignolles à Paris. Au revoir.
Au revoir.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire et avec Valentin Azan-Zilinski à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin de 10h à 10h30 sur France 2 dans Présence protestante, c'est le magazine Ma foi sur le thème Forger nos caractères avec en plateau Luc Bussière, pasteur président du réseau Mathurin Cordier, une association d'établissements scolaires protestants évangéliques, et pour la séquence en pleine nature, une rencontre avec Joël, qui est coutelier. Mais sur France Culture, à suivre tout de suite les informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Et je vous souhaite un bon dimanche à chacune et chacun.